toujours dans l'entrée métaphysique. Nous devons constater qu'avec le XIVe siècle, Occam a donné comme point de départ de la métaphysique la propre connaissance de lui-même. Je connais. Et puis, comme il était franciscain, il ajoutait « et j'aime Socrate ». C'est l'amour de Saint François, pas sur Socrate, mais pour Occam. Je crois que nous devons tenir compte de ça, beaucoup. Parce qu'à partir de là, il y a eu une bifurcation. La métaphysique n'a plus été une recherche de l'être, c'était une recherche de la connaissance humaine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au fond, la vieille métaphysique qui regarde le point de vue de l'être semble toujours un peu en arrière. Et c'est sûrement très important l'influence que ça a eue de cette personne. Nous devons y répondre. C'est-à-dire, nous comprenons que la métaphysique commence toujours par le jugement d'existence. Je ne m'intéresse en métaphysique qu'à ce qui existe. Point terminal. Tout ce qui est un rêve, des idéologies, des imaginations, tout ça n'est pas de la métaphysique. Mais nous comprenons que le jugement d'existence par rapport à nous-mêmes, je pense, pas donc je suis a été donné par ceci est. Mais je pense est venu en plus. La philosophie thomiste n'a pas tenu compte du tout de ça. Elle a simplement critiqué Descartes. Pourquoi n'a-t-elle pas critiqué ça? Parce qu'au fond, toujours la même chose, la théologie, la philosophie thomiste, s'est révélée à partir de la théologie de saint Thomas. Vous voyez, on a extrait de la pensée de saint Thomas une philosophie qui était liée à sa théologie. Alors, vous comprenez que ce n'est pas un vrai départ philosophique, ça. Un vrai départ philosophique demande toujours la réalité. Or, comme nous sommes en présence avec Occam et les successeurs d'Occam, Descartes, et avec Descartes après, tout ce qui se passe en Europe et en Amérique, il faut que nous soyons très attentifs à ce nouveau départ de la métaphysique. Et que nous le comprenions en dépendance du premier, mais en même temps en comprenant l'importance de cette réflexion, je pense. Parce que, évidemment, la métaphysique, elle est pour connaître l'homme et Dieu. La connaissance de l'homme est très importante. Alors, la connaissance de l'homme ne peut pas ce passé que lorsque l'homme est étudié, il porte lui-même un propre jugement sur lui. Nous sommes le mieux placés pour savoir ce que nous sommes. Les autres nous connaissent de l'extérieur, tandis que nous connaissons de l'intérieur. Il y a donc quelque chose de très particulier auquel la scolastique n'a pas fait assez attention, mais que nous devons, nous, faire grande attention. Le point de départ, ceci est, demeure capital pour tout aspect métaphysique, mais la connaissance qu'on a de nous, qui est tout à fait différente. Est-ce que quand je dis je suis, je pense, est-ce que c'est spéculatif ou pratique? C'est au fond pratique. C'est toute l'éthique. On doit donner une importance beaucoup plus grande à l'éthique, surtout depuis Kant. Donc il y aura comme deux points de départ toujours, mais en respectant l'ordre. Un point de départ de ceci est, et l'autre point de départ, je suis, j'existe. J'existe, je pense. Mais il y a évidemment, on ne peut pas le nier, dans l'affirmation « je pense », quelque chose d'irréductible à « ceci est ». Et ce quelque chose d'irréductible dont je pense doit être maintenu philosophiquement. Et je crois que ça, c'est capital. Autrement dit, ceci est point de départ, mais comme jugement d'existence, quel est le plus parfait? Ceci est n'est pas le plus parfait. Le plus parfait, c'est je suis ton ami. Mon ami existe. Tu es mon ami. C'est un jugement d'existence qui porte sur la personne. Le premier sur la nature. Ceci est. Et ce jugement ultime, qui est le plus parfait des jugements que je puis poser, dans une expérience. Parce que le plus parfait des jugements, c'est dire il y a un être premier. Dieu existe. Ça, c'est le plus parfait des jugements. Je ne peux pas avoir un jugement plus parfait et plus fort que celui-là. Mais pour celui-là, le jugement d'existence suffit. Mais on se sert du jugement d'existence, tu es mon ami. Vous voyez, parmi les jugements d'existence immédiats, c'est-à-dire où je constate une réalité existante. Le plus parfait, c'est le jugement d'existence par rapport à une personne humaine. Tu es mon ami. Parce que je n'ai aucune expérience aussi parfaite que celle d'une personne humaine. Et l'autre, le plus parfait autre, c'est l'ami. Le plus parfait autre, c'est l'existence de Dieu, mais l'existence de Dieu, j'en ai pas l'expérience. Tandis que de l'ami, j'ai l'expérience. Donc, le jugement sur l'autre, le plus parfait, c'est « tu es mon ami ». Et je crois ça important de signaler que la métaphysique ne peut pas se séparer d'une éthique. Le sommet de l'éthique, c'est « tu es mon ami ». Ça, c'est le sommet de l'éthique. On ne peut pas aller plus loin. Quand je reconnais quelqu'un, mon ami, et que je le connais, connaître la personne humaine. Et c'est vraiment parfait. Alors, je crois que nous avons tout de suite bien montré que la métaphysique, elle est dans la ligne de ceci est. Mais la métaphysique ne peut pas négliger l'éthique. Elle l'a beaucoup trop négligée. D'où Kant est arrivé. Et nous devons répondre à Kant. Nous devons répondre, vous voyez, à ce fait que pour tous les modernes, le point de vue du sujet, moi, est le point de départ pour eux de la métaphysique. C'est pour eux le principal. Alors, nous devons comprendre ce qu'il y a de vrai dans cette affirmation. Il y a quelque chose de vrai. Il ne faut pas que l'affirmation du sujet supprime cette affirmation, ceci est. Ce qui existe, hélas, dans la pensée moderne. Et je me souviens, en Sorbonne, où j'assistais à un étudiant passait son examen de doctorat. Et puis en face de moi, quelqu'un que j'ai essayé de repérer, c'était un ex-religieux. Et il m'a dit, et c'était ça qui le tracassait, qu'est-ce que vous voulez dire par ce jugement d'existence ? Il a pensé ça au candidat, ça revient tout le temps, il me dit après, si vous l'employez, je reconnais ici. Qu'est-ce que vous voulez dire, le jugement d'existence ? Oui, le jugement d'existence, ceci est. À Fribourg, j'avais un professeur de philosophie qui enseignait avec moi, mais qui enseignait autre chose que moi. Et les étudiants le disaient, il faudrait que vous fassiez un cours en face de nous, adressé directement à notre professeur. Parce qu'il disait que c'était la même chose d'affirmer ceci et d'affirmer ceci. C'est intéressant. Alors on a fait un cours à deux pour se contrer. Ce que les étudiants aimaient beaucoup, parce qu'il n'y a rien de plus intéressant qu'un jeu de balle, de boule de neige. Enfin, bon. Bien arrivé. Alors lui affirmait tout le temps. C'est la même chose, ceci et ceci. Alors, moi, ça va très loin. Hein. Autrement dit, la pensée ne dépasse pas l'idée. Elle n'atteint jamais l'existence. Ceci, rien de plus. Ah, vous dites ceci et ça n'a aucune importance. C'est ceci qui est intéressant. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est ceci est. Parce que ceci est, j'affirme quelque chose qui dépasse le ceci. L'existence, ça dépasse le ceci. Parce que ça peut être n'importe quel ceci. Vous voyez ? Et alors, au fond, on arrive dans la philosophie moderne. On savait très bien d'où ça venait, c'était pas original. On a cette autre affirmation, tu es mon ami. C'est l'autre affirmation, massive et originale. C'est très évangélique en même temps, vous voyez. Dieu et le prochain. C'est pas suffisant d'affirmer Dieu, il faut affirmer le prochain. L'autre. Alors, je crois qu'on doit être attentif à ça. Nous n'oublions pas, en philosophie, le prochain. Parce que toute la morale assume la recherche de l'amitié. Et la recherche de l'amitié conduit à la recherche de la contemplation. Je ne m'arrête pas à l'ami, je le dépasse. Après l'ami, c'est Dieu. Tout de suite après. C'est assez impressionnant. On a donc trois jugements d'existence qu'il faut secouer très fort dans tous les sens. Ceci est, tu es mon ami. Oui, tu es mon ami. Et pour affirmer Dieu existe, je n'ai pas besoin, tu es mon ami, non. Mais dans le monde d'aujourd'hui, j'en ai besoin. Et Aristote n'en avait pas besoin. Ceci était suffisant. Mais pour nous, nous sommes en face d'une philosophie qui s'est développée énormément du côté de la conscience, du côté subjectif. Alors, on a besoin, je crois, corriger ça. Parce que si on ne le corrige pas, ça devient un obstacle. Alors qu'au contraire, si on le corrige, l'autre devient un ami. Et si l'autre devient un ami, on peut être deux à rechercher l'existence de Dieu. Et c'est quelque chose de très fort, alors. Et en philosophie contemporaine, c'est sûr que l'autre joue un rôle capital. L'expérience de l'amitié. Ceci, vous voyez, petite parenthèse, mais je crois ça important pour nous. C'est que l'éthique, c'est-à-dire la connaissance pratique de moi-même, je dois faire, vous voyez, Kant, je dois faire ceci. Lui, c'est capital. L'expérience de l'autre devient nécessaire pour que le ceci est puisse découvrir toute sa valeur. Le ceci est devient très particulier quand ceci est pour l'ami. Parce que quand je dis ceci est, je n'inclus pas la personne. Tandis que quand je dis tu es mon ami, j'implique la personne. Je pense. Aujourd'hui, c'est très nécessaire. Parce que si on est attentif au développement de la pensée, on voit que le XIVe siècle a été un tournant magique. Citons Thomas d'Aquin. Comme si Thomas d'Aquin avait été tellement loin, avait exagéré. A été trop loin, alors la réplique. Non, revenons à quelque chose de plus pratique, nous-mêmes. Et à partir du XIVe siècle, le point de vue de la personne, donc du sujet, est devenu primordial. Tandis que avant, l'objectivité de ceci était royale. Mais il n'est plus aujourd'hui, pratiquement il n'est plus. Il y a eu une découverte très importante du sujet. Et cette découverte très importante du sujet, je ne peux pas l'ignorer. Je dois en tenir compte, mais en la rectifiant. En la rectifiant, l'autre, l'ami, ça demeure un ami et non pas un ennemi. En scolastique, on a considéré que la découverte de l'autre très facilement, c'était l'ennemi. C'était tombé dans une espèce de subjectivité. Il n'y a que l'objectivité du ceci. Tandis que si nous comprenons bien l'expérience très particulière que nous avons dans l'expérience de l'amitié, tu es mon ami. Et si nous comprenons que cette expérience, tu es mon ami, me donne un sens tout à fait nouveau, point de vue subjectif, la personne. Alors, ça aide à découvrir l'être premier par la subjectivité. Vous comprenez, découvrir l'existence de Dieu, c'est en gardant contact avec ce qui existe. Parce que l'existence, on ne peut pas l'inventer. Donc il faut garder un contact avec ce qui est. Bon, garder ce contact avec ce qui est, il se fait de deux manières. Ceci est, et puis, tu es mon ami. Or, la différence du ceci est, c'est que tout l'accent est mis sur être. Ceci est. Donc sur l'exister. Le ceci peut être n'importe quoi. De ce qui existe. Tandis que tu es mon ami, l'accent est mis sur la personne. C'est la personne qui m'intéresse. Cette personne existe, oui, c'est très bien. Et je désire saisir cette personne en tant qu'elle existe, mais c'est la personne qui donne à mon jugement une dimension toute nouvelle. Donc quelque chose de très important pour moi. Pour pouvoir découvrir l'existence de l'être premier, de Dieu, étant donné la fragilité de ma connaissance, j'ai besoin d'un ami. On est deux à découvrir l'existence de Dieu. On s'appuie sur l'ami. Et s'appuyant sur l'ami, il y a un ressort très fort, très puissant, pour sortir de l'expérience et découvrir la source cachée, la source de tout ce qui est. Donc, il faut ajouter à ceci et l'autre. Tu es mon ami. Et ce sont les deux. Les deux points auxquels je reviens tout le temps. Pour revenir tout le temps à ces deux grandes affirmations. Ces deux grandes affirmations sont pour moi des garde-fous. Il ne faut pas les quitter. Alors, je progresse dans ceci est la première connaissance que j'ai, c'est la réalité du monde physique. La réalité du monde physique, c'est ce qu'Aristote appelle la philosophie de la nature. La philosophie de la nature consiste à découvrir ce qu'il y a de premier dans la nature. Et cette philosophie de la nature me permet de découvrir les quatre éléments. Les quatre éléments reposent sur l'expérience des sens pour découvrir l'objet propre de la vue, l'objet propre du toucher, l'objet propre de mes cinq sens. Le feu conduisait les anciens à parler de la quintessence. Il y avait les quatre éléments et le feu. Parce que l'expérience du feu, c'était quelque chose d'assez spécial. Parce qu'on brûlait. C'est-à-dire qu'on était consommé. Et c'est l'expérience, c'était pour les anciens, c'était l'expérience des astres, du soleil. Ce qui domine. Bon. La quintessence, comme cinquième élément, quintessence, hein, je vous dis cinquième élément, quatre éléments, la terre, l'eau, le vent, le feu. Et le feu, alors, se divise en éléments. Et puis le feu du ciel. Alors on avait quatre, cinq éléments. Alors il est sûr que le cinq élément, nous l'avons découvert d'une façon beaucoup plus profonde et que les étoiles ne sont pas un corps distinct. De ce que nous pouvons découvrir. Mais ils sont à l'état pur, un état particulier. Donc la philosophie de la nature repose sur la découverte des quatre éléments. Alors c'est intéressant de se poser la question, est-ce que parler des quatre éléments, ça a encore un sens aujourd'hui. Alors, j'avais fait à Fribourg une recherche avec des savants. Est-ce qu'on peut encore parler de quatre éléments ? Si on distingue l'objet propre, le sensible propre, du sensible commun, on peut comprendre que les quatre éléments reposent sur les sensibles propres, directement, et non pas sur les sensibles communs. Les sensibles communs, c'est la quantité. Alors que toute la science qui lutterait contre les quatre éléments repose sur les sensibles communs. Ce qui est mesurable. Les sensibles communs sont mesurables, tandis que les sensibles propres ne sont pas mesurables. Ensuite, il y a la philosophie du vivant, ce qui se meut. Et dans la philosophie du vivant, l'homme est au sommet, tandis que l'homme et drôlement au sommet des quatre éléments. C'est pas la même chose. Et après la philosophie du vivant, il y a la métaphysique. Étudier ce qui est en tant qu'être. Et il faut ne pas oublier. Donc, en philosophie, il y a toujours philosophie de la nature, philosophie du vivant, métaphysique, l'être en tant qu'être. C'est la métaphysique. La métaphysique elle-même impliquer la recherche des principes propres de ce qui est en tant qu'être. Principes propres de matériel. La métaphysique est au-delà de la cause matérielle. La cause matérielle est essentielle à la philosophie de la nature, mais la philosophie de l'être, de ce qui est en tant qu'être, ne peut pas découvrir à ce niveau une causalité matérielle. De sorte qu'en métaphysique, il y a la recherche uniquement de la cause formelle et de la cause finale. Toute recherche scientifique est une recherche des principes matériels, formels, efficients et finales. La grande découverte d'Aristote, saint Thomas a repris entièrement, découvrir les causalités de la réalité. Alors, la cause matérielle n'entre pas en métaphysique, l'être en tant qu'être. La causalité efficiente non plus. Seule la métaphysique. Très particulier à la métaphysique, c'est justement qu'il n'y a que deux causalités qu'on recherche. La causalité formelle, c'est qu'est-ce que c'est ? Qui est-ce ? Qu'est-ce que c'est que ça ? La causalité finale, en vue de quoi existe cette chose ? La causalité efficiente, c'est d'où ça vient. Donc la causalité efficiente nous fait découvrir le mouvement. Et donc la philosophie première, qui est la recherche de l'être en tant qu'être, elle est au-delà de la causalité efficiente, comme elle est au-delà de la causalité matérielle. L'être en tant qu'être n'est pas la matière. L'être en tant qu'être n'est pas le mouvement. Donc la métaphysique aura la recherche de la cause formelle de ce qui est en tant qu'il est. Et la cause finale. La cause formelle, ce sera la découverte de la substance. De la causalité formelle sera la recherche de ce qui est, de ce qu'est l'être en tant qu'être. Quelle est sa détermination? Quelle est sa nature? L'être comme tel. Et en vue de quoi, finalement? La métaphysique à deux recherches, la cause formelle, la cause finale. Mais la métaphysique recherche aussi la manière dont ces principes s'exercent. D'où la recherche de la personne. Toute réalité implique implique une détermination fondamentale. Elle implique une finalité propre. Alors, cette détermination fondamentale dans l'ordre de l'être, c'est la substance. Dans l'ordre de la fin, c'est la fin. La détermination de l'être en tant qu'être, au point de vue métaphysique, c'est la recherche de la substance. La recherche de la causalité finale de l'être en tant qu'être, c'est l'acte. Les deux grandes recherches métaphysiques, c'est la substance et l'acte. Et en plus de la découverte de ces deux principes, on se demande comment ces principes existent-ils ? Comment ils se présentent à nous ? C'est à l'égard de cette interrogation-là qu'on découvre ce qu'est la personne. La personne implique un être spirituel qui a une fin spirituelle, une finalité propre. Et la personne, c'est justement l'être qui est capable de choisir sa fin. Que nous devons étudier cette année-ci, c'est justement le problème de la personne. Vous voyez où ça se situe ? On reviendra dessus, hein, pour que vous voyez bien. Où se situe exactement le problème de la personne ? La personne n'est pas un principe. C'est pas un principe de l'ordre de l'être. La personne, c'est quelque chose qui fait que je suis maître du développement de ma personne. La personne se développe. Elle implique une nature, mais elle dépasse la nature. Vous voyez, c'est le jeu des deux qu'il faut bien comprendre au point de vue métaphysique. La personne a été étudiée sûrement, a été étudiée surtout du côté psychologique, et la personne n'a pas été étudiée du côté métaphysique. La scolastique, qui étudiait la philosophie de saint Thomas, n'a pas étudié la personne. C'est un très grand trou en scolastique, ça. Parce que on n'étudiait pas assez la scolastique pour elle-même, la philosophie de l'être pour elle-même. Puisque la métaphysique, c'est la recherche de ce qui est en tant qu'être. La recherche de ce qui est en tant qu'être, lorsqu'on est en présence d'une substance spirituelle, a ceci de particulier, c'est que cette substance spirituelle est capable de se déterminer. Je suis capable d'orienter ma vie pas m'orienter totalement, j'ai un donné, la nature. Mais au-delà de la nature, il y a la recherche de la personne, la finalité. Alors, ce qu'on verra la fois prochaine, parce que c'est assez délicat à bien préciser. recherche des principes et la personne n'est pas un principe. Elle est une manière d'exister.